Jules Verne, Robur le Conquérant, 1886. Chapitre 1. Où le monde savant et le monde ignorant sont aussi embarrassés l'un ou l'autre. Pan, pan ! Les deux coups de pistolet partirent presque en même temps. Une vache qui paissait à 50 pas de là reçut une des balles dans l'échine. Elle n'était pour rien dans l'affaire, cependant. Ni l'un ni l'autre des deux adversaires n'avaient été touchés. Quels étaient ces deux gentlemen? On ne sait. Et cependant, c'eût été là sans doute l'occasion de faire parvenir leur nom à la postérité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le plus âgé était anglais, le plus jeune américain. Quant à indiquer en quel endroit l'inoffensif ruminant venait de paître sa dernière touffe d'herbe, rien de plus facile. C'était sur la rive droite du Niagara, non loin de ce pont suspendu qui réunit la rive américaine à la rive canadienne, 3000 au-dessous des chutes. L'anglais s'avança alors vers l'américain. « Je n'en soutiens pas moins que c'était le Roulé Britannia, » dit-il. « Non, le Yankee Doodle, » répliqua l'autre. La querelle allait recommencer lorsque l'un des témoins, sans doute dans l'intérêt du bétail, s'interposa, disant « Mettons que c'était le Roulé Doodle et le Yankee Britannia, et allons déjeuner. » Ce compromis entre les deux champs nationaux de l'Amérique et de la Grande-Bretagne fut adopté à la satisfaction générale. Américains et Anglais, remontant la rive gauche du Niagara, vinrent s'attabler dans l'hôtel de Goat Island, un terrain neutre entre les deux chutes. Comme ils sont en présence des œufs bouillis et du jambon traditionnel, du roast beef froid, relevé de pickles incendiaires, et de flots de thé à rendre jalouses les célèbres cataractes, on ne les dérangera plus. Il est peu probable d'ailleurs qu'il soit encore question d'eux dans cette histoire. Qui avait raison, de l'anglais ou de l'américain? Il eût été difficile de se prononcer. En tout cas, ce duel montre combien les esprits s'étaient passionnés, non seulement dans le nouveau, mais aussi dans l'ancien continent, à propos d'un phénomène inexplicable qui, depuis un mois environ, mettait toutes les cervelles à l'envers. Au sublime d'Edith Columbque Tuery, a dit Ovid, pour le plus grand honneur de la créature humaine. En vérité, jamais on n'avait tant regardé le ciel depuis l'apparition de l'homme sur le globe terrestre. Or, précisément, pendant la nuit précédente, une trompette aérienne avait lancé ses notes cuivrées à travers l'espace, au-dessus de cette portion du Canada, située entre le lac Ontario et le lac Erie. Les uns avaient entendu le Yankee Doodle, les autres le Roulé Britannia. De là cette querelle d'anglo-saxons, qui se terminait par un déjeuner à Goat Island. Peut-être en somme n'était-ce ni l'un ni l'autre de ces chants patriotiques. Mais ce qui n'était douteux pour personne, c'est que ce son étrange avait ceci de particulier qu'il semblait descendre du ciel sur la terre. Fallait-il croire à quelque trompette céleste, embouché par un ange ou un archange? N'était-ce pas plutôt de joyeux aéronautes qui jouaient de ce sonore instrument, dont la renommée fait un si bruyant usage? Non, il n'y avait là ni ballon, ni aéronaute. Un phénomène extraordinaire se produisait dans les hautes zones du ciel, phénomène dont on ne pouvait reconnaître la nature, ni l'origine. Aujourd'hui, il apparaissait au-dessus de l'Amérique. 48 heures après, au-dessus de l'Europe. 8 jours plus tard, en Asie, au-dessus du céleste empire. Décidément, si la trompette qui signalait son passage n'était pas celle du jugement dernier, qu'était-ce donc cette trompette? De là, en tout pays de la terre, royaume ou république, une certaine inquiétude qu'il importait de calmer. Si vous entendiez dans votre maison quelques bruits bizarres et inexplicables, ne chercheriez-vous pas au plus vite à reconnaître la cause de ces bruits? Et si l'enquête n'aboutissait à rien, n'abandonneriez-vous pas votre maison pour en habiter une autre? Oui, sans doute. Mais ici la maison, c'était le globe terrestre. Nul moyen de le quitter pour la Lune, Mars, Vénus, Jupiter ou toute autre planète du système solaire. Il fallait donc découvrir ce qui se passait. Non dans le vide infini, mais dans les zones atmosphériques. En effet, pas d'air, pas de bruit. Et comme il y avait bruit, toujours la fameuse trompette, c'est que le phénomène s'accomplissait au milieu de la couche d'air, dont la densité va toujours en diminuant, et qui ne s'étend pas à plus de 2 lieues autour de notre sphéroïde. Naturellement, des milliers de feuilles publiques s'emparèrent de la question, la traitèrent sous toutes ses formes, l'éclaircirent ou l'obscurcirent, rapportèrent des faits, vrais ou faux, alarmèrent ou rassurèrent leurs lecteurs, dans l'intérêt du tirage, passionnèrent enfin les masses quelque peu affolées. Du coup, la politique fut par terre et les affaires n'en allèrent pas plus mal. Mais qui avait-il ? On consulta les observatoires du monde entier. S'ils ne répondaient pas, à quoi bon des observatoires ? Si les astronomes qui dédoublent ou détriplent des étoiles à 100 000 milliards de lieues n'étaient pas capables de reconnaître l'origine d'un phénomène cosmique, dans le rayon de quelques kilomètres seulement, à quoi bon des astronomes ? Aussi, ce qu'il y eut de télescopes, de lunettes, de longues-vues, de lorgnettes, de binocles, de monocles, braqués vers le ciel pendant ces belles nuits d'été, ce qu'il y eut Dieu à l'oculaire des instruments de toute portée et de toute grosseur, on ne saurait l'évaluer. Peut-être des centaines de mille, à tout le moins. 10 fois, 20 fois plus qu'on ne compte d'étoiles à l'œil nu sur la sphère terrestre. Non, jamais éclipse, observée simultanément sur tous les points du globe, n'avait été à pareille fête. Les observatoires répondirent, mais insuffisamment. Chacun donna une opinion, mais différente. De là, guerre intestine dans le monde savant pendant les dernières semaines d'avril et les premières de mai. L'observatoire de Paris se montra très réservé. Aucune des sections ne se prononça. Dans le service d'astronomie mathématique, on avait dédaigné de regarder. Dans celui des opérations méridiennes, on n'avait rien découvert. Dans celui des observations physiques, on n'avait rien aperçu. Dans celui de la géodésie, on n'avait rien remarqué. Dans celui de la météorologie, on n'avait rien entrevu. Enfin, dans celui des calculateurs, on n'avait rien vu. Du moins, l'aveu était franc. Même franchise à l'observatoire de Montsouris, à la station magnétique du parc Saint-Maur. Même respect de la vérité au bureau des longitudes. Décidément, français veut dire franc. La province fut un peu plus affirmative. Peut-être dans la nuit du 6 au 7 mai avait-il paru une lueur d'origine électrique, dont la durée n'avait pas dépassé 20 secondes. Au pic du midi, cette lueur s'était montrée entre 9 et 10 heures du soir. À l'observatoire météorologique du Puy-de-Dôme, on l'avait saisie entre 1h et 2h du matin. Au Mont-Ventoux, en Provence, entre 2 et 3 heures. À Nice, entre 3 et 4 heures. Enfin, au Semnoz-Alpes, entre Annecy, le Bourget et le Léman, au moment où l'aube blanchissait le zénith. Évidemment, il n'y avait pas à rejeter ces observations en bloc. Nul doute que la lueur eût été observée en divers postes, successivement, dans le laps de quelques heures. Donc, ou elle était produite par plusieurs foyers, courant à travers l'atmosphère terrestre, ou, si elle n'était due qu'à un foyer unique, c'est que ce foyer pouvait se mouvoir avec une vitesse qui devait atteindre bien près de 200 km à l'heure. Mais pendant le jour, avait-on jamais vu quelque chose d'anormal dans l'air ? Jamais. La trompette, du moins, s'était-elle fait entendre à travers les couches aériennes ? Pas le moindre appel de trompette n'avait retenti entre le lever et le coucher du soleil. Dans le Royaume-Uni, on fut très perplexe. Les observatoires ne purent se mettre d'accord. Greenwich ne parvint pas à s'entendre avec Oxford, bien que tous deux soutinssent qu'il n'y avait rien. « Illusion d'optique, » disait l'un. « Illusion d'acoustique, » répondait l'autre. Et là-dessus, ils disputèrent. En tout cas, illusion. À l'observatoire de Berlin, à celui de Vienne, la discussion menaça d'amener des complications internationales. Mais la Russie, en la personne du directeur de son observatoire de Pulkova, leur prouva qu'ils avaient raison tous deux. Cela dépendait du point de vue auquel ils se mettaient pour déterminer la nature du phénomène. En théorie impossible, possible en pratique. En Suisse, à l'observatoire de Sottis, dans le canton d'Appenzell, au Rigi, au Guebris, dans les postes du Saint-Gothard, du Saint-Bernard, du Julier, du Simplon, de Zurich, du Zumblick dans les Alpes tyroliennes. On fit preuve d'une extrême réserve à propos d'un fait que personne n'avait jamais pu constater, ce qui est fort raisonnable. Mais en Italie, aux stations météorologiques du Vésuve, au poste de l'Etna, installé dans l'ancienne Casa Inglese, au Monte Cavo, les observateurs n'hésitèrent pas à admettre la matérialité du phénomène, attendu qu'ils l'avaient pu voir, un jour, sous l'aspect d'une petite volute de vapeur, une nuit, sous l'apparence d'une étoile filante. Ce que c'était d'ailleurs, ils n'en savaient absolument rien. En vérité, ce mystère commençait à fatiguer les gens de science, tandis qu'il continuait à passionner, à effrayer même, les humbles et les ignorants, qui ont formé, forment et formeront l'immense majorité en ce monde, grâce à l'une des plus sages lois de la nature. Les astronomes et les météorologistes auraient donc renoncé à s'en occuper si dans la nuit du 26 au 27, à l'observatoire de Kantekeno, au Finnmark, en Norvège, et dans la nuit du 28 au 29, à celui de Lysfjord, au Spitsberg, les Norvégiens d'une part, les Suédois de l'autre, ne se fussent trouvés d'accord sur ceci. Au milieu d'une aurore boréale avait apparu une sorte de gros oiseau, de monstre aérien. S'il n'avait pas été possible d'en déterminer la structure, du moins n'était-il pas douteux qu'il eût projeté hors de lui des corpuscules qui détonnaient comme des bombes. En Europe, on voulut bien ne pas mettre en doute cette observation des stations du Finnmark et du Spitsberg. Mais ce qui parut le plus phénoménal en tout cela, c'était que des Suédois et des Norvégiens eussent pu se mettre d'accord sur un point quelconque. On rit de la prétendue découverte dans tous les observatoires de l'Amérique du Sud, au Brésil, au Pérou comme à La Plata, dans ceux de l'Australie, à Sydney, à Adélaïde comme à Melbourne. Et le rire australien est des plus communicatifs. Bref, un seul chef de station météorologique se montra affirmatif sur cette question, malgré tous les sarcasmes que sa solution pouvait faire naître. Ce fut un Chinois, le directeur de l'observatoire de Zikawei, élevé au milieu d'une vaste plaine, à moins de 10 lieues de la mer, avec un horizon immense, baigné d'air pur. Il se pourrait, dit-il, que l'objet dont il s'agit fût tout simplement un appareil aviateur, une machine volante. Quelle plaisanterie ! Cependant, si les controverses furent vives dans l'ancien monde, on imagine ce qu'elles durent être en cette portion du nouveau, dont les États-Unis occupent le plus vaste territoire. Un Yankee, on le sait, n'y va pas par 4 chemins. Il n'en prend qu'un. Et généralement celui qui conduit droit au but. Aussi les observatoires de la Fédération américaine n'hésirent-ils pas à se dire leurs faits. S'ils ne se jetèrent pas leurs objectifs à la tête, c'est qu'il aurait fallu les remplacer, au moment où l'on avait le plus besoin de s'en servir. En cette question si controversée, les observatoires de Washington, dans le district de Columbia, celui de Cambridge, dans l'état de Doona, tinrent tête à celui de Dartmouth College, dans le Connecticut, et à celui d'Ann Arbor, dans le Michigan. Le sujet de leur dispute ne porta pas sur la nature du corps observé, mais sur l'instant précis de l'observation. Car tous prétendirent l'avoir aperçu dans la même nuit, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, bien que la trajectoire du mystérieux mobile n'occupât qu'une médiocre hauteur au-dessus de l'horizon. Or, du Connecticut au Michigan, du Doona au Columbia, la distance est assez grande pour que cette double observation, faite au même moment, pût être considérée comme impossible. Dudley, à Albany, dans l'État de New York, et West Point, de l'Académie militaire, donnèrent tort à leurs collègues par une note qui chiffrait l'ascension droite et la déclinaison du dit corps. Mais il fut reconnu plus tard que ces observateurs s'étaient trompés de corps, que celui-ci était un bolide qui n'avait fait que traverser la moyenne couche de l'atmosphère. Donc ce bolide ne pouvait être l'objet en question. D'ailleurs, comment le susdit bolide aurait-il joué de la trompette? Quant à cette trompette, on essaya vainement de mettre son éclatante fanfare au rang des illusions d'acoustique. Les oreilles, en cette occurrence, ne se trompaient pas plus que les yeux. On avait certainement vu, on avait certainement entendu. Dans la nuit du 12 au 13 mai, nuit très sombre, les observateurs de Yale College, à l'école scientifique de Sheffield, avaient pu transcrire quelques mesures d'une phrase musicale, en ré majeur, à quatre temps, qui donnait note pour note, rythme pour rythme, le refrain du chant du départ. « Bon, » répondirent les loustiques, « c'est un orchestre français qui joue au milieu des couches aériennes. » Mais plaisanter n'est pas répondre. C'est ce que fit remarquer l'Observatoire de Boston, fondé par l'Atlantic Iron Works Society, dont les opinions sur les questions d'astronomie et de météorologie commençaient à faire loi dans le monde savant. Intervint alors l'Observatoire de Cincinnati, créé en 1870 sur le mont Lookout, grâce à la générosité de M. Kilgour, et si connu pour ses mesures micrométriques des étoiles doubles. Son directeur déclara, avec la plus entière bonne foi, qu'il y avait certainement quelque chose, qu'un mobile quelconque se montrait dans des temps assez rapprochés, en divers points de l'atmosphère. Mais que sur la nature de ce mobile, ses dimensions, sa vitesse, sa trajectoire, il était impossible de se prononcer. Ce fut alors qu'un journal, dont la publicité est immense, le New York Herald, reçut d'un abonné la communication anonyme qui suit. On n'a pas oublié la rivalité qui mit aux prises, il y a quelques années, les deux héritiers de la bégum de Raghinara. Ce docteur français Sarrazin, dans sa cité de Franceville. L'ingénieur allemand Herschultz, dans sa cité de Stallstadt. Cité située toutes deux en la partie sud de l'Oregon, aux États-Unis. On ne peut avoir oublié davantage que dans le but de détruire Franceville, Herschultz lança un formidable engin qui devait s'abattre sur la ville française et l'anéantir d'un seul coup. Encore moins ne peut-on avoir oublié que cet engin, dont la vitesse initiale au sortir de la bouche du canon monstre avait été mal calculée, fut emporté avec une rapidité supérieure à 16 fois celle des projectiles ordinaires, soit 150 lieues à l'heure, qu'il n'est plus retombé sur la terre, et que passé à l'état de bolide, il circule, et doit éternellement circuler autour de notre globe. Pourquoi ne serait-ce pas le corps en question, dont l'existence ne peut être niée? Fort ingénieux, l'abonné du New York Herald. Et la trompette? Il n'y avait pas de trompette dans le projectile de Herschultz. Donc, toutes ces explications n'expliquaient rien. Tous ces observateurs observaient mal. Restait toujours l'hypothèse proposée par le directeur de Zika Wei, mais l'opinion d'un Chinois. Il ne faudrait pas croire que la satiété finit par s'emparer du public de l'ancien et du nouveau monde. Non. Les discussions continuèrent de plus belle, sans qu'on parvînt à se mettre d'accord. Et cependant, il y eut un temps d'arrêt. Quelques jours s'écoulèrent sans que l'objet, bolide ou autre, fût signalé, sans que nul bruit de trompette se fît entendre dans les airs. Le corps était-il donc tombé sur un point du globe où il eût été difficile de retrouver sa trace? En mer, par exemple? Gisait-il dans les profondeurs de l'Atlantique, du Pacifique, de l'océan Indien? Comment se prononcer à cet égard? Mais alors, entre le 2 et le 9 juin, une série de faits nouveaux se produisirent, dont l'explication eût été impossible par la seule existence d'un phénomène cosmique. En 8 jours, les Hambourgeois, à la pointe de la tour Saint-Michel, les Turcs, au plus haut minaret de Sainte-Sophie, les Rouennais, au bout de la flèche métallique de leur cathédrale, les Strasbourgeois, à l'extrémité du Münster, les Américains, sur la tête de leur statue de la liberté, à l'entrée de l'Hudson, et au faîte du monument de Washington, à Boston, les Chinois, au sommet du temple des 500 génies, à Canton, les Hindous, au 16e étage de la pyramide du temple de Tanjore, les San Pietrini, à la croix de Saint-Pierre de Rome, les Anglais, à la croix de Saint-Paul de Londres, les Égyptiens, à l'angle aigu de la grande pyramide de Gizeh, les Parisiens, au paratonnerre de la tour en fer de l'exposition de 1889, haute de 300 mètres, purent apercevoir un pavillon qui flottait sur chacun de ces points, difficilement accessible. Et ce pavillon, c'était une étamine noire, semée d'étoiles, avec un soleil d'or à son centre.